Radio Okapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. Accalmie ce vendredi à Kisigari, dans le retour au Nord Kivu. C'est après des nouveaux affrontements hier soir entre le M23 et les FARDC. Aucun bilan pour l'heure. Toutefois, les détonations ont créé une panique au sein de la population, rapporte des sources coutumières. La relique de Lumumba a quitté ce matin l'aéroport de Tchoumbé à destination de Kisangani. C'est après une cérémonie d'hommage devant plusieurs personnalités de la place. 62 ans après le décès de Lumumba, la population de Onalua, son village natal, s'exprime face à cet événement à suivre dans ce journal. Et puis, l'invité de ce midi, Athanase Kituka Malango, chargé des programmes à la Commission diocésaine Justice et Paix et membre de la société civile du Tanganyika, il explique ce que la MONUSCO a réalisé en faveur de la société civile et comment cette dernière compte accompagner le gouvernement pour le développement de la province après le départ de la MONUSCO du Tanganyika. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part du Nord Kivu. La situation sécuritaire est calme ce vendredi dans le groupement de Kisigari, territoire de Rutshuru. Cette entité coutumière a été une fois de plus le théâtre des affrontements entre 17h et 20h hier entre les rebelles du M23 et les FARDC. Selon des sources coutumières locales, les villages Bugina et Buyanza ont été les cibles des attaques des rebelles. Le récit de Bernardin Nyangi.
Aucun bilan de ces affrontements n'est connu jusqu'à présent. Toutefois, les sources coutumières locales dans le groupement de Kisigari indiquent que ces détonations d'hier à la tombée de la nuit ont ébranlé les habitants des villages Kabaya et Moussinzero, riverains à la base militaire de Rumangabo et qui ont fui le milieu. Pendant ce temps, d'après nos sources, la situation de Bikenke Nkokwe, nord-est du groupement Kisigari et sud-est de celui de Djomba, n'est pas clairement connue. Ces localités sont passées sous occupation des rebelles du 1-23 depuis le début de la semaine. D'autres sources concordantes dans le territoire parlent des scènes de pillage qui auraient été perpétrées par les combattants du 1-23 hier jeudi dans la localité de Kabindi sur l'axe Rutshuru-Bunagana. Cette localité est abandonnée par ses habitants depuis environ 2 semaines avant d'être occupée par les rebelles le week-end dernier. Goma, Bernardin Yangui, Radio Okapi.
Au sud Kivu voisin, dans les hauts plateaux du territoire de Fizi, des affrontements ont été signalés hier entre Tuiruaneo et Biloze Bishambuke à Irumba, village situé à 15 km au sud de Minembwe Centre. Des sources locales affirment que des combattants Tuiruaneo et leurs alliés androïdes ont lancé l'assaut vers 5h du matin contre ce village déjà vidé de ses habitants. Récit des faits avec Fiston Gomamayabala.
Le président de la société civile de Minembwe, Saint Kader Ovuza, confirme ces affrontements à Irumba entre deux groupes armés locaux, Tuiruaneo et Biloze Bishambuke. Irumba, zone qui sépare Minembwe de Lulenge, a été désertée par ses habitants alors que chaque groupe tente de les contrôler, indique Saint Kader Ovuza. Entre temps, d'autres combats signalés par d'autres sources concordantes dans les villages d'Ibumba, Natulonge, Kijombo et Mihamba ne sont confirmés ni par la société civile de Minembwe ni par les FARDC dans la région. Par ailleurs, au sud-est de Mikenge, dans les territoires de Mwenga voisins, les habitants ont dénoncé ce jeudi un activisme accru des miliciens Maïmaï Moutetezi dans la zone de Kitacha et d'autres villages voisins, dont Bilalombili, Ngezi et Tuetue. Une patrouille de longue portée des forces onusiennes s'est rendue hier à Kitacha pour évaluer la situation des protections et de la sécurité. Les habitants de Kitacha ont évoqué l'absence des troupes FARDC dans la région, ce qui crée un vide sécuritaire permettant aux groupes armés d'opérer en toute sécurité. Les notables de Kitacha se disent préoccupés par cette situation et affirme que les habitants sont découragés par le harcèlement des hommes armés qui collectent des taxes illégales et leur imposent d'autres charges pour leur sécurité. D'Ouvira Fiston Momayabala, Radio Okapi.
Pendant ce temps, la Cour militaire du Nord Kivu, siégeant en matière répressive au degré d'appel en chambre foraine à Beni, a rendu hier 21 arrêts dans plusieurs dossiers. Les infractions jugées relèvent de la participation au mouvement insurrectionnel des EDF et Mai Mai, meurtre et viol impliquant les membres des groupes armés militaires et civils, peut se détailler avec Martial Papi Mukeba.
La cour a d'abord condamné 26 prévenus à des peines allant de 10 ans de servitude pénale principale à la perpétuité et à la peine de mort. Parmi eux, des combattants ADF et leurs collaborateurs, des miliciens Maïmaï, quelques militaires FARDC, un policier ainsi que 5 civils poursuivis pour participation à un mouvement insurrectionnel, meurtre et viol. Tous ces prévenus condamnés déjà au premier degré restent en détention. En revanche, la cour a annulé la condamnation des 12 militants de la Lucha condamné au premier degré en avril dernier par le tribunal militaire de garnison de Beni à 12 mois de prison pour désobéissance aux lois de la République. Dans son arrêt, la cour militaire, qui s'appuie sur l'ordonnance loi modifiée sur l'état de siège, parlait de l'incompétence matérielle des juridictions militaires à juger cette infraction qui relève plutôt des juridictions civiles. Ainsi, les 12 militants de la Lucha qui restent en détention sont renvoyés devant le parquet militaire qui va décider de la suite de leur dossier. Beni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Province de l'Ituri, cette bonne nouvelle, les prix du carburant et de certaines denrées alimentaires sont revus à la baisse sur les marchés dans les différents centres commerciaux de cette province. Les opérateurs économiques attribuent cela à l'amélioration de la situation sécuritaire et la réhabilitation du trafic sur le tronçon Bunia-Mahagi. Cette baisse de prix a également une incidence sur le transport en commun. Isaac Remoyope nous en dit plus.
Un litre de carburant se négocie actuellement à 3100 voire 3200 francs congolais dans les stations-service à Bunia. Alors qu'il y a environ un mois, un litre s'est vendu à 4000 francs congolais. Les tarifs des transports en commun dans la ville de Bunia et sur les différents axes routiers a également baissé. Selon certains commerçants, les attaques des groupes armés sur les tronçons commandes à Bunia-Mahagi-Arou sont très rares depuis plus d'un mois et cette route est en bon état grâce aux travaux de réfection financés par le gouvernement, ce qui a rendu le trafic très fluide sur cette route nationale. De nombreux camions transporteurs des marchandises arrivent chaque jour à Bunia à provenance des pays voisins et des zones de dessertes agricoles dans les territoires des Djougou et des Mahagi. Un sac de 25 kg de riz est passé de 37 à 27 dollars. Un bidon d'huile végétale qui s'est vendu à 60 dollars s'est négocié à 40 dollars et un bassin de 10 kg d'haricots s'est vendu à 18 000 francs au lieu de 25 000 voire 30 000 francs congolais il y a environ un mois. De nombreux habitants s'en réjouissent et demandent au gouvernement d'accélérer le processus de DDRCS pour l'instauration d'une paix durable à Ituri. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Je vous le disais en titre, la relique de Patrice Emery Lumumba a quitté ce vendredi matin l'aéroport de Tchoumbé dans la province du Sankuru pour la ville de Kisangani dans la Tchopo. C'était devant plusieurs personnalités dont le gouverneur du Sankuru, la famille Lumumba ainsi que les habitants de son village. Depuis le début de la cérémonie d'hommage jusqu'à la levée de la dépouille, l'émotion était visible sur les visages de plusieurs membres de la famille. 62 ans après le décès de Lumumba, quel est le sentiment de la population de Onalua face à cet événement? Claude Lodi, membre du mémorial, s'exprime au micro d'Esther Ndalafina.
Chez nous, on dit que le corps est revenu au village. Je voudrais vous dire que c'est vraiment insatisfaisant pour toute la population du Sankuru parce que 62 ans après, le corps de Patrice Emery Lumumba qui était gardé ailleurs est revenu au Sankuru. Je sais vous dire tout de suite, il y a des gens qui sont venus de tous les territoires, presque toute la province, et nous étions même très contents d'être honorés par la présence du président de l'Assemblée nationale qui était le représentant personnel du chef de l'État à cette manifestation. Nous avions profité pour remercier le chef de l'État par rapport à ça parce que pour nous, il a posé un acte indélébile. C'est vraiment insatisfaisant pour la population du Sankuru et toute la communauté des Akuchu Anamongo par rapport à ça, parce que Patrice Emery Lumumba n'a jamais été pleuré normalement. Mais maintenant, il venait d'être pleuré. Il fallait vraiment voir la foule. Et il y avait beaucoup de gens, il y avait beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de gens qui ont pleuré. En tout cas, il y avait beaucoup d'actes. Les chefs coutumiers ont procédé à leur cérémonie. Tout a été fait normalement par la coordination du gouverneur de province, M. Jules Lodi, et président de l'Assemblée nationale. Et différentes notabilités, il y avait les députés nationaux, les sénateurs, et il y avait aussi une représentation provinciale, donc tout s'est passé normalement.
Kasaï Central, le nouveau gouverneur a rendu public son gouvernement hier dans la soirée. Dans cet arrêté signé par John Kabea, l'on y trouve 10 ministres dont 2 femmes en dehors du secrétariat exécutif. L'autorité provinciale avait organisé des consultations de plusieurs forces vives de la province. François Kadima nous en parle.
Dans cette équipe gouvernementale, l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, parti cher au gouverneur, bénéficie de 3 postes. C'est notamment le ministère de l'Intérieur avec Antoine Kanulambi, l'économie et finances où l'on retrouve Jim Mukenge et les hydrocarbures avec Zakaï Kaimé. Certains d'autres partis comptent chacun un ministère. Citons entre autres Honoré Baloué de l'Union pour la Nation Congolaise, UNC, à l'agriculture, et Willy Wichier de l'Envol aux infrastructures. La santé, l'enseignement primaire, secondaire et technique ont été confiés aux femmes. Rose Kachama occupe le premier et Marie-Jeanne Toudimoné le deuxième. Le gouverneur de province a également placé une femme comme secrétaire exécutif. Bijou Koupoué est également porte-parole du gouvernement. Elle est secondée par Patrick Chamoa comme secrétaire exécutif adjoint. Donc avant la publication de ce gouvernement, John Kabaya a décidé de supprimer toutes les barrières illicites sur l'ensemble de la province et la restauration de la pratique Salongo obligatoire chaque samedi de 8h à 12h. Il a aussi annoncé les démarrages des travaux de la route Kananga-Kalamambouji. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Sud Kivu, la ville de Bukavu a vibré hier dans la soirée à l'annonce de l'acquittement de Vital Kamerhe à la télévision nationale. Les artères principales de Bukavu ont été envahies par des nombreux sympathisants de l'UNC. Une caravane motorisée a sillonné la ville sous la vigilance de la police. Dans son territoire natal de Walungu, l'ambiance était la même. Témoin de l'événement, Jean Kassami.
La caravane est partie de la permanence de l'INC à la place Moulamba de Nyawera dans la commune d'Ibanda, en passant par le rond-point ISP, Major Vangu, place de l'indépendance, avant de revenir au point de départ. Certains sympathisants ont même veillé à la permanence du parti où la nuit a été rythmée par des chants, des cris de joie et des danses. Dans les quartiers, les commentaires sont allés aussi bon train. La plupart des habitants semblaient ne pas comprendre pourquoi ce virage brusque de la justice congolaise en faveur de Vital Kamerhe. D'autres, par contre, ont apprécié la célérité avec laquelle le dossier Kamerhe a été traité en appel. Par ailleurs, nos sources contactées à Walungu, village d'origine de Vital Kamerhe, renseignent que l'ambiance de joie a été observée même si de courte durée. Ceux qui en avaient les moyens ont pu sortir pour partager quelques bières. La même source précise que la nouvelle d'acquittement de Kamerhe était connue d'avance depuis au moins une semaine à Walungu Centre. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Célébration aujourd'hui 24 juin de la 55e journée nationale du poisson au Nord Kivu. Cette journée est célébrée dans un contexte particulier d'instabilité sécuritaire, notamment dans le territoire de Rutshuru. Cette situation a été décriée par la Fédération des pêcheurs individuels du lac Édouard, Fekopel, lors des manifestations organisées à cette occasion dans l'enclave de pêche de Vichumbi au sud du lac Édouard. Selon le secrétaire exécutif de cette organisation, alors que les pêcheurs sont victimes des tracasseries sur le lac, le secteur est aussi gravement affecté par les affrontements opposant les FARDC au M23 dans le Rutshuru. Josué Kambasu Mukura explique la situation au micro de Bernard Nyangi.
Pendant cette célébration, nous demandons vraiment à ce que la population soit derrière les FARDC, puisque la guerre à Rutshuru doit impacter négativement sur le bon fonctionnement des institutions au niveau du lac Édouard, et ça peut détériorer les efforts que nous avons déjà fournis pour l'assainissement du lac Édouard, puisque toujours quand il y a guerre dans le territoire de Rutshuru, le lac n'est pas épargné, le parc national de Virunga n'est pas épargné. C'est pourquoi nous demandons à ce que le gouvernement congolais puisse appuyer sur le plan militaire, sur le plan politique et diplomatique pour que la population du Nord Kivu soit sécurisée avec leurs biens. Puisque sur le lac Édouard, nous sommes victimes des arrestations. Cette semaine ici, plus de 40 pirogues ont été arrêtées par cette marine ougandaise et ils ont libéré chaque pirogue moyennant $150. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement congolais de voir comment réglementer la pêche, baliser la frontière pour que les Ougandais ne puissent pas chaque fois capturer nos pêcheurs dans les eaux territoriales du Congo.
Rappelons que la journée nationale du poisson est célébrée le 24 juin de chaque année en RDC depuis 1967. C'est avec l'objectif de valoriser notamment les pêcheurs et promouvoir la protection des ressources de pêche et d'aquaculture.
Actualité internationale.
Nous sommes au Mali. La nouvelle loi électorale adoptée il y a une semaine par le Conseil national de transition, l'organe législatif de la transition, attend toujours d'être promulguée par le président, le colonel Assimi Goïta. Cette nouvelle loi, projet phare du gouvernement, a été profondément modifiée par le CNT. 92 amendements qui ne sont pas du goût du gouvernement. Le président Goïta promulguera-t-il tout de même le texte avec ses amendements? Le renverra-t-il au CNT pour une seconde lecture? En tout cas, ce qui préoccupe surtout les esprits, c'est la possibilité d'une candidature des militaires actuellement au pouvoir à la prochaine échéance présidentielle au Mali, censée marquer la fin de la transition, une possibilité offerte par le cumul de cette nouvelle loi électorale et de la charte révisée de la transition, la condition que le président démissionne à la fois de la présidence et de l'armée 4 mois avant la date du futur scrutin.
L'invité.
Après le départ de la MONUSCO du Tanganyika, les organisations de la société civile sont appelées à accompagner le gouvernement pour le développement de la province. À ce sujet, nous recevons Athanase Kituka Malango, chargé des programmes à la Commission diocésaine Justice et Paix et membre de la société civile du Tanganyika. Il explique ce que la MONUSCO a réalisé en faveur de la société civile et comment celle-ci compte accompagner le gouvernement pour le développement du Tanganyika. Athanase Kituka s'entretient avec Fulbert Balolagué.
Athanase Kituka Malango, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes chargé des programmes au sein de la Commission diocésaine Justice et Paix. Vous êtes aussi membre de la société civile ici au Tanganyika. La MONUSCO est en train de partir. Qu'est-ce que cela représente pour la population de Kalemi?
Le départ de la MONUSCO nous laisse avec un sentiment, d'une part des regrets, et l'autre sens aussi un sentiment de pouvoir nous assumer aussi comme Congolais. Sentiment de regret parce que la MONUSCO ferme, bien sûr qu'ils auront des unités du côté Bendera, mais nous avons la résurgence des conflits intercommunautaires et l'activisme de certains groupes armés qui mettent les conditions de vie de la population en difficulté, et nous avons aussi enregistré des mouvements de population sur plusieurs axes, notamment sur l'axe Mala, littoral de lac Tanganyika. Nous avons des mouvements dans le groupement Kasanga-Nyemba et nous avons encore des mouvements de population à Kisengo où les Apanapali en coalition avec d'autres forces négatives Mai Mai Malaika sèment la désolation à la population.
Vous êtes comme CDJP, bénéficiaire des activités de la MONUSCO. Ce départ, vous avez dit, c'est un regret. Mais est-ce que vous pensez que les organisations de la société civile sont déjà prêtes pour pérenniser ces acquis de la MONUSCO?
Oui, de ce côté-là, nous devons féliciter la MONUSCO, particulièrement comme Commission de Saison Justice et Paix, parce que si je me mettais à dénombrer tout ce que la MONUSCO a fait pour la société civile du Tanganyika, c'est beaucoup. En résumé, je peux parler de l'abord de l'organisation de la société civile. Comme vous le savez, la société civile est pluriel, mais nous nous sommes retrouvés avec la MONUSCO qui nous a appuyés sérieusement à nous regrouper dans les groupes thématiques aujourd'hui. Toutes les organisations qui interviennent dans les droits de l'homme se connaissent, tous ceux qui parlent dans le développement se connaissent, et ça nous a permis d'être dans une coordination malgré notre pluralité. Et la MONUSCO nous a aussi appuyés dans les renforcements des capacités des organisations de la société civile. Il y a eu pas mal de formations sur le monitoring des droits de l'homme, sur comment rédiger des projets, comment mobiliser les fonds. Et aujourd'hui, les ONG ou les organisations de la société civile au niveau du Tanganyika sont à même de se prendre en charge et de faire entendre notre voix au niveau international.
Je suppose aussi que la part est grande pour la société civile par le fait que la MONUSCO est en train de partir. Il y a un nouveau gouvernement qui entre. Donc la société civile se retrouve au milieu qui n'a pas changé. Qu'est-ce que vous pensez faire?
La toute première chose que nous allons faire, c'est nous rapprocher avec le nouveau gouvernement. On va entendre la vision du nouveau gouvernement provincial avec qui on va travailler en partenariat. Et nous avons l'opportunité du programme PDDRC qui vient de commencer. On a vu la présence du coordonnateur national dans la province. C'est aussi une opportunité qu'on va saisir pour pouvoir, nous, comme Commission de Saison Justice et Paix, intensifier nos activités de dialogue, d'émission de bons offices et de sensibilisation auprès des groupes armés et les milices Tuatu comme Bantu, afin que nous puissions saisir cette opportunité afin que les miliciens se rendent auprès du gouvernement et que nous puissions penser développement après le départ de la MONUSCO.
On invite pour le moment les organisations de la société civile à participer au développement de la province. Comment vous avez trouvé cette approche de vous appeler et de participer au développement?
C'est une bonne approche parce que déjà comme société civile nous participons déjà au développement aux côtés du gouvernement et avec l'appui des agences des systèmes des Nations Unies. Maintenant, nous voulons parler développement après le départ de la MONUSCO. comme je le disais tantôt, que le développement, on ne peut pas en parler aussi dans sa forme normale, avec autant de sites de déplacés, autant de mouvements de population dans plusieurs groupements. Si cela va continuer, le développement n'aura pas son sens. En plus, dans les échanges avec le coordinateur humanitaire, on nous a invité, nous, société civile, à participer activement. C'est ici où je veux profiter aussi de lancer notre plaidoyer, parce que la plupart des organisations de la société civile n'ont même pas accès aux fonds humanitaires, que ce soit les fonds de développement. Là, nous allons demander un accompagnement encore pour que certaines organisations qui sont actives sur le terrain soient aussi dans les critères d'éligibilité aux fonds humanitaires, voire aux fonds de développement avec les agences qui vont rester dans la province du Tanganyika.
Athanase Kitoka, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste.
Le chargé de programme à la Commission diocésaine justice et paix et membre de la société civile du Tanganyika répondait aux questions de Fulbert Balolagué. C'est la fin de ce journal supervisé par Alain Rungmushinj, coordination de Noéla Luzito Kabambi. Alain Goya la mise en onde et Belinda Bosuma vous l'a présenté. Merci de votre attention.